Philippiens chapitre 3, versets 1 à 14. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La semaine dernière, l'apôtre Paul brossait le portrait de vie, de relations transformées par l'Évangile. Ainsi, entre Paul et Timothée, nous trouvions l'exemple d'une amitié de confiance, confiance ancrée en Jésus-Christ. Et entre Paul et Épaphrodite, nous trouvions une amitié de courage, courage motivé par le partenariat pour l'Évangile. Après avoir dressé le portrait de relations profondément transformées par l'Évangile, Paul reste sur un thème similaire. Et Paul en vient à parler de sa propre vie. Mais nous le verrons, si Paul ici rapporte le récit de sa conversion, c'est afin de faire comprendre quelque chose d'important, de primordial, l'importance de se réjouir dans le Seigneur et l'importance de ne tirer sa fierté que du Seigneur. Dans ces versets, Paul nous formule un rappel et une mise en garde. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. L'apôtre Paul commence ce chapitre avec un rappel, une exhortation ô combien importante. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'en coûte pas de vous le rappeler. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Au cœur de la vie chrétienne, il y a la joie du salut. Ce n'est pas une joie hilarité, c'est une joie bien plus profonde, une joie de savoir au plus profond de son être que Dieu nous aime et qu'il a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur terre. Cette joie du salut ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui cohabite avec la souffrance, une joie qui permet de surmonter la souffrance. L'importance de la joie. Je pense l'avoir déjà dit ici, mais je le rappelle aujourd'hui. Fondamentalement, qu'est-ce qu'être chrétien ? Qu'est-ce qu'être chrétien ? Est-ce croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts ? Je vais peut-être vous surprendre, mais non, ce n'est pas cela. Le diable lui-même sait toutes ces choses. Il va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Mais cela ne fait pas de lui un chrétien pour autant. Ce qui fait un chrétien, c'est la joie. Le chrétien est dans la joie de toutes ces choses. La joie de savoir que le Fils de Dieu est venu sur terre, qu'il est mort sur cette croix, à notre place, que nos péchés sont pardonnés. Et la joie de savoir qu'il vit aujourd'hui. Le diable sait toutes ces choses, mais ce n'est pas pour lui un sujet de joie, au contraire. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. La joie du salut, la joie à la vue de Jésus-Christ et de son œuvre. Le commencement de toute vie chrétienne, c'est la joie du Saint-Esprit, cette joie du salut qui ne dépend pas des circonstances, mais cette joie toujours présente, même lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. Nous réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur est pour nous. Je crois qu'il y a dans la joie un bon indicateur de là où nous en sommes par rapport à Dieu. Nous réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur est pour nous ? Ou comprenons-nous la foi comme étant un fardeau, toujours un fardeau ? Sommes-nous reconnaissants au Seigneur ? Et nous réjouissons-nous du fait de chercher à vivre des relations fraternelles transformées par l'Évangile. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de joie tout de suite après avoir parlé de relations transformées par l'Évangile. Je ne pense pas qu'il faille voir dans ce chapitre comme une toute nouvelle section, un nouveau raisonnement, mais au contraire la suite logique du chapitre 2. Nous réjouissons-nous de vivre des relations transformées par l'Évangile ? Dans toute relation entre deux personnes, il y aura des moments plus tendus que d'autres. Parce qu'à partir du moment où il y a plus d'une personne, il y aura aussi souvent plus d'une opinion, d'un positionnement, il y aura des comportements différents, et cela même dans l'Église. Comment vivre fraternellement dans de telles situations ? Je crois que tous, d'une certaine manière, lorsque nous sommes arrivés dans l'Église, nous avons amené notre lot de problèmes. Je crois que c'est inévitable, d'une certaine manière. Une église n'est pas un lieu rempli de gens bien qui acceptent d'accueillir que des gens bien, avec peut-être de temps en temps une personne avec son lot de problèmes, non ? Nous sommes tous arrivés avec nos problèmes, tous. Avant de comprendre l'Évangile, avant de comprendre ce que Jésus a fait pour nous, nous étions des personnes à problème, reconnaissons-le. Et nous le sommes aujourd'hui encore. Alors bien sûr, nous avons probablement changé depuis notre conversion, du moins je l'espère. Mais aujourd'hui encore, nous sommes des personnes à problème. Nous sommes des personnes à problème. Mais des personnes à problème pardonnées de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un vient vers nous dans l'Église avec un problème, ce n'est pas toujours facile à vivre. Parce que c'est un fardeau. Parce que nous ne sommes pas forcément très forts spirituellement. Et aussi parce que nous oublions quel est le but, quel est l'objectif de l'Église. Cet objectif, c'est la joie du salut. C'est pour la joie que nous endurons la souffrance aujourd'hui. C'est grâce à la joie de l'Évangile et pour la joie du salut que nous aidons les autres avec leur fardeau. Des relations fraternelles fondées sur la joie du salut. Et pour la joie du salut. C'est fondé sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qu'il nous faut vivre nos relations fraternelles, fondé sur la joie du salut. La joie n'est-elle pas un avant-goût du royaume de Dieu ? C.S. Lewis écrit dans ses lettres à Malcolm Joy is the serious business of heaven. La joie, c'est l'affaire sérieuse du ciel. On ne plaisante pas avec la joie du salut. Dans nos relations fraternelles, dans notre témoignage, dans nos épreuves, réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est là la première exhortation de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur et prenez garde aux mauvais ouvriers. Relisons les versets 2 et 3. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Prenez garde aux mauvais ouvriers. J'ai toujours trouvé ce verset surprenant. Surprenant déjà par le positionnement de ce verset dans l'Épître. Au premier verset, il est question de joie, puis ici de mauvais ouvriers. Quel est le lien entre les deux thèmes? Surprenant aussi parce que Paul ne dit pas « Prenez garde aux gens de l'extérieur qui vont chercher à vous détourner de Dieu. » Mais au contraire, faites attention à ceux qui cherchent à vous détourner au sein même de l'Église. Hein? Ici, les personnes sont dans l'Église, pour l'apôtre Paul. Elles ne sont pas l'Église, mais elles sont dans l'Église. Ces mauvais ouvriers, ces hommes ignobles, vous poussent à mettre votre confiance et votre joie non pas dans le Seigneur, mais dans une pratique religieuse. Les commentateurs de noter ce changement surprenant de thème passe de la joie aux mauvais ouvriers. Comment comprendre? Je pense que la solution la plus simple me semble la meilleure. L'apôtre parle de la joie, mais il s'arrête, comme s'il avait quelque chose en tête qui l'empêchait de continuer son raisonnement. Paul rappelle la joie de l'Évangile. Mais de suite, connaissant l'Église de Philippe, il sait ce qui pourrait empêcher les Philippiens d'expérimenter cette joie. Les mauvais ouvriers. Paul met en garde contre ces mauvais ouvriers qui pourraient empêcher les Philippiens de connaître et d'expérimenter cette joie profonde. Soyez vigilants. Ne laissez personne enlever ou rajouter à la croix de Christ. Soyez particulièrement vigilants. La plupart des enseignements trompeurs que l'on peut trouver dans les églises semblent logiques, semblent bons au premier abord. C'est pour cela que c'est vicieux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul est si dur avec ces personnes. Et pourquoi il est si attristé à cause d'eux, hein? Voici ce qu'il dira au verset 18 et 19. « Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. » Les fausses doctrines peuvent sembler bonnes de premier abord. Dans notre texte, ces mauvais ouvriers affirmaient que les chrétiens devaient être circoncis pour pouvoir être sauvés. De premier abord, cela ne semble peut-être pas si horrible. La circoncision était centrale dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est derrière est horrible. Parce que ce qui est annoncé est le suivant. Le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. C'est ce qu'ils disent. Pour pouvoir être sauvé, être réellement sauvé, c'est à vous d'agir quand même en vous faisant circoncire. C'est vicieux comme raisonnement, particulièrement vicieux. Lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit « Dieu n'existe pas, Jésus non plus », notre réponse sera évidente, du moins je l'espère. Mais lorsque quelqu'un commence son raisonnement en disant « Oui, Dieu existe, Christ aussi, oui, Jésus est Dieu venu sur terre, il est mort et ressuscité », nous serons tentés de l'écouter et de croire ce qu'il dit. Les plus dangereux des faux prophètes sont ceux qui ont un discours proche du nôtre. Sachons distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Soyons vigilants. Prenez garde aux chiens, dit l'apôtre Paul. Le mot que Paul utilise ici est choquant. Choquant. Et s'il se permet d'être aussi tranchant, c'est parce que ce sont là des ennemis de la croix, mais dont lui-même faisait partie il n'y a pas si longtemps. L'apôtre Paul faisait partie de ces chiens. Le message de l'Évangile est le suivant: mettez votre joie et votre confiance, votre fierté en Dieu. Quelqu'un qui vous annonce le contraire est un mauvais enseignant, un chien, un ennemi de la croix. Réjouissez-vous dans le Seigneur, en lui seul, et mettez votre confiance dans le Seigneur et en lui seul. Pour insister sur ce point, Paul va donner l'exemple de sa propre personne. Humainement, personne n'arrivait à sa cheville. Et pourtant, cela n'était pas suffisant. Versets 4 à 6. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » À son époque, Paul possédait les meilleures caractéristiques qu'un homme bon, pieux pourrait aspirer. Saul de Tarse, qui se fera appeler Paul par la suite, était un modèle de juif pieux. Peu de personnes pouvaient se vanter d'avoir le même pédigré que lui. Circoncis le huitième jour, la circoncision rituelle israélite qui était pratiquée sur tout mâle nouveau-né. Circoncision qui était un signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, en Genèse 17, verset 12. Paul, au contraire de ceux qui se convertissaient ou qui se sont convertis au judaïsme par la suite, était juif de naissance. Et plus que seulement de naissance, il était issu de la tribu de Benjamin. Israël était composé de 12 tribus. La tribu de Benjamin était particulièrement estimée grâce à sa fidélité remarquable au Seigneur. Faire partie de la tribu de Benjamin était quelque chose de symboliquement fort. Et le nom juif de l'apôtre Paul, Saul, en fait c'est Saül, nous l'appelons régulièrement Saul, mais en fait c'est le même prénom que le roi Saül dans l'Ancien Testament, c'est pour des raisons pratiques que l'on appelle Paul Saul et non pas Saül, mais c'est le même prénom. C'est un prénom qui n'a pas été choisi par hasard. Saül était le personnage le plus illustre issu de la tribu de Benjamin. Quel symbole! Mais Paul ne s'arrête pas là. Juif de naissance, issu de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Ses parents étaient tous les deux hébreux. Ses grands-parents l'étaient, leurs parents à eux également. Il est pur sang hébreu. Et sa fierté ne s'arrêtait pas là. Si son héritage était prestigieux, tout cela ne dépendait d'une certaine manière pas vraiment de lui. Mais dans sa vie, dans ses choix, Paul a fait tout ce qu'il fallait faire. Il faisait partie du groupe des pharisiens. Groupe des pharisiens. Ils étaient les plus respectés, les plus exigeants, les plus conservateurs vis-à-vis de la loi. Afin d'être sûrs d'appliquer la loi, ils avaient cherché à spécifier la loi pour expliquer l'Ancien Testament, afin d'être sûrs d'appliquer la volonté de Dieu. Paul va même jusqu'à dire: face aux exigences de la loi, j'étais irréprochable. Et plus que seulement son héritage familial, pas seulement son attachement religieux, mais son zèle était exemplaire. L'apôtre Paul surpassait les autres pharisiens en ce qu'il n'hésita pas à persécuter les chrétiens. Et nous le voyons dans le livre des Actes, c'est lui qui a pris l'initiative de sa propre personne et qui demanda l'approbation du grand prêtre pour aller persécuter les chrétiens. Paul, en tant que juif de naissance de la tribu de Benjamin, pur sang hébreu, pharisien, zélé pour Dieu, croyait rendre service à Dieu en persécutant les chrétiens. Paul était promis un grand avenir dans le judaïsme. Parmi les plus zélés, parmi les plus juifs des juifs, il avait la famille, l'héritage, l'éducation, il a été formé auprès du plus prestigieux rabbin de son temps, Gamaliel, et la motivation. Il n'y a aucun doute qu'il serait devenu l'un des responsables religieux du temple de Jérusalem, si ce n'est le responsable du Sanhédrin. Si une personne pouvait se vanter, c'était bien l'apôtre Paul. Personne ne lui arrivait à la cheville. Personne. Mais verset 7, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Toutes ces choses, je les considère comme une perte, comme des ordures. Et le mot grec traduit par ordure est un mot fort, même choquant. Un skibala, les excréments. Lui qui se plaisait d'être sans faute par son obéissance et par son zèle, il considère maintenant tout cela comme des skibala. Pourquoi ce changement radical de perspective? Sa rencontre avec le Christ. Sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul rencontra Jésus-Christ. Cette rencontre a profondément transformé sa vie. Cette rencontre avec Jésus va faire basculer toutes les valeurs de Paul. Ce qu'il considérait gain, il le considère maintenant comme une perte. Tout ce qui faisait sa fierté, son érudition, son identité juive, son statut religieux et social, n'a plus aucun prix à ses yeux. Paul est quelqu'un qui cherchait à se justifier devant Dieu, qui mettait tout son zèle dans cette recherche de justification. Il n'y en avait de plus pur et de plus zélé pour Dieu que lui. La rencontre avec le Christ va mettre à jour son aveuglement spirituel. Paul va comprendre que personne ne peut se justifier par ses propres œuvres, pas même lui. Ses propres œuvres l'ont amené à persécuter l'Église du Messie que le peuple juif attendait. Paul tirait sa fierté de ses origines, de son obéissance. Sa rencontre avec le Christ va le faire comprendre que cela ne pouvait pas le justifier. Tout ce qui le justifiait humainement l'amenait en réalité droit à sa perte. Paul tirait sa fierté d'avoir été circoncis le huitième jour. Mais ce que Dieu attendait, c'était une circoncision du cœur. Une circoncision du cœur. Et ce n'est pas nouveau. Jérémie 4, verset 4. Purifiez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs aux hommes de Juda, habitants de Jérusalem. Car sinon, ma colère jaillira comme un feu et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. L'Ancien Testament l'annonçait déjà. La circoncision physique n'avait aucune valeur salutaire. Il fallait que les circoncis dans la chair soient circoncis du cœur pour que Dieu les considère comme ses enfants. Sur la tradition religieuse de l'apôtre Paul, là encore, ce qui le justifiait l'amenait en fait à sa perte. Lui, le pharisien zélé, n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Il en était loin même. Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Magnifique ce verset, n'est-ce pas ? Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. S'il considère tout ce qui le justifiait comme une perte, c'est à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ. Sa fierté, il l'attire non plus de sa personne, mais dans le fait de connaître Christ. Son désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice qu'il aurait lui-même acquise, car c'est impossible, mais par la justice acquise par le Christ pour lui à la croix. L'homme a beau chercher à être juste, à se justifier devant Dieu et les hommes, mais il n'arrivera pas à le faire. Nous sommes bien plus pécheurs que nous voulons bien l'admettre. Mais le message de l'Évangile est tout simplement merveilleux. Cette justice, nous n'arrivons pas à l'acquérir, mais Christ l'a accomplie à notre place. Jésus-Christ s'est saisi de moi, dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Si Christ est venu sur terre, c'est pour mourir à la croix. Lorsque Christ mourra sur la croix, ce n'est pas parce que Dieu l'aurait puni de quelque chose. Au contraire même. Lorsque le serviteur mourra de cette mort horrible qui lui était promise, ce n'était pas à cause de ses péchés, mais des nôtres. Des nôtres. Nous étions comme des brebis, nous allions chacun par notre propre chemin. Mais c'est sur lui que retomba le poids de nos fautes. Si Jésus fut percé sur le bois, c'est à cause de nous. Pour nos fautes, il a été brisé. Nous est résumé ici l'essence même de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. S'il est venu, c'est afin de mourir à notre place. Lui, le juste, va donner sa vie en sacrifice pour nous, les injustes. Lui en qui il n'y avait même pas l'ombre de péché a pris sur lui le sombre et triste sort qui nous était réservé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Tout ce qui faisait la fierté de l'apôtre Paul, son érudition, son identité, son statut religieux et social n'a plus aucun prix à ses yeux. Rien n'est plus important pour l'apôtre Paul que de connaître le Christ. Rien n'est plus important que connaître le Christ. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui nous justifie aujourd'hui ? D'où tire-t-on notre fierté ? Où mettons-nous notre joie ? Où mettons-nous notre confiance ? Rien n'est plus important que connaître le Christ. Où en êtes-vous par rapport à Christ ? Jésus-Christ s'est saisi de moi. Voilà comment Paul résume sa fierté. Cela ne vient pas de lui, mais de Dieu lui-même. Christ s'est saisi de lui. Lui qui cherchait à se justifier a compris que c'était impossible. La seule manière pour être sauvé, pour être pardonné de ses fautes, est comprendre que nous n'arriverons pas à le faire par nous-mêmes. Et comprendre que le Christ, lui, a fait tout ce qu'il fallait pour notre salut. Nous sommes bien plus pécheurs que nous voulons bien l'admettre, mais également bien plus aimés que nous ne voulons l'admettre. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Si ces paroles ne sont pas encore les vôtres, je vous encourage à y réfléchir sérieusement. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, verset 12, ou que j'ai déjà atteint la perfection, Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen.